Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Lambert Mata, s'est entretenu pour la première fois depuis la présidentielle de 2016 avec des proches du principal opposant, Jean Ping. C'était lors d'une réunion en vue des législatives prévues avant fin avril. La rencontre a eu lieu à Libreville, mercredi. Jean Ping conteste toujours le scrutin de 2007 et se considère comme le président élu du Gabon. C'est la première fois que ses partisans ont des discussions avec des représentants du gouvernement du président Ali Bongo Ondimba. La crise en RDC, maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU demande à toutes les parties de travailler ensemble pour la tenue des élections dans le calendrier retenu du 23 décembre en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré mercredi son président en exercice, l'ambassadeur néerlandais Karel van Ostrom. Lors de consultations à huis clos, les 15 membres du Conseil de sécurité ont aussi condamné le recours à la violence lors des manifestations du 27 février dans différentes localités de la RDC. C'est ce que l'ambassadeur néerlandais Karel van Ostrom a souligné à l'issue de leur réunion, alors qu'une grève générale est organisée demain vendredi en mémoire des militants tués ce jour-là par les forces de sécurité congolaises. Et sur place en RDC, le nouveau code minier au cœur du débat national. Le président Joseph Kabila a eu des consultations avec les opérateurs du secteur, une réunion qui a duré 8 heures mercredi. Christian Lusakweno, de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, fait le point.
Le président de la République et les miniers se sont séparés en se promettant de se revoir pour élaborer avec le gouvernement la nouvelle réglementation minière. Le nouveau code minier sera promulgué très bientôt. Quant aux craintes émises par les miniers, les solutions seront résolues au cas par cas, a dit à la presse le ministre des Mines, Martin Kabouéloulou.
Nous allons porter ces problèmes au cas par cas et nous allons voir avec les commissions du gouvernement et ensuite nous porterons ces modifications à la confection du règlement minier.
Selon le ministre des Mines, les pourparlers ne se sont pas bien passés au début, mais se sont heureusement bien terminés.
Ils étaient de mauvaise humeur, mais maintenant c'est bon, c'est ça qui les arrange.
Au Palais de la Nation, Christian Lusakweno, Top Congo FM.
Toujours en RDC, environ 2500 réfugiés burundais dans le pays ont été escortés mercredi jusqu'au Rwanda par les casques bleus de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo. Ces réfugiés craignaient d'être rapatriés au Burundi. Abdourahmane Dia.
Cela faisait 2 mois qu'on était sans aucune assistance de la part du HCR ou des autorités congolaises. On vivait sous les menaces de nos voisins congolais et on craignait de se faire extrader vers le Burundi. C'est ce qu'a expliqué Dionysse Nyanloué, un de leurs porte-parole. Les 2579 réfugiés burundais ont parcouru à pied les 5 kilomètres séparant Kamanyola en République démocratique du Congo du poste frontière rwandais de Bugarama. En septembre dernier, 36 réfugiés burundais avaient été tués au cours d'affrontements avec des soldats congolais au sujet de l'emprisonnement de certains d'entre eux. Des dizaines de milliers de Burundais se sont réfugiés depuis 2015 dans l'est de la RDC pour échapper aux violences dans leur pays. Le Burundi traverse une crise politique depuis la candidature en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza en 3e mandat et sa réélection en juillet de la même année.
Afrique de l'Ouest maintenant, Togo, au lendemain d'une déclaration de l'opposition dénonçant la poursuite du processus électoral par le gouvernement et annonçant la reprise de ses manifestations de rue, le gouvernement togolais dément l'existence d'un accord qui le contraindrait à suspendre le processus devant aboutir aux élections législatives et locales prévues pour cette année. Les précisions de notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
Il n'y a jamais eu un accord qui stipule que la coalition cesse de manifester et qu'en retour, le gouvernement suspend le processus électoral. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Protection civile et de la Sécurité, Yark Damhan, prenant le contre-pied d'une des raisons évoquées par la coalition des 14 partis de l'opposition pour reprendre les marches. Le gouvernement togolais, en conférence de presse ce mercredi, a tenu à souligner que les législatives doivent se tenir très prochainement et qu'une suspension du processus électoral pourrait conduire à un vide juridique, ce que le gouvernement ne se permettrait pas. On ne se lève pas un matin pour organiser une élection, elle se prépare à laisser entendre le ministre Yak. Concernant les manifestations de l'opposition de la semaine prochaine, le gouvernement se veut ferme. Aucune manifestation n'est autorisée dans les villes de Sokodé, Bafilo et Mango dans le nord du pays. Les populations de ces trois villes sont plus heureuses sans les marches, a ironisé Yark Damhan. Rappelons que la coalition de l'opposition a appelé à 4 jours de manifestation de rue la semaine prochaine. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Burkina Faso, le procès du putsch manqué de septembre 2015 reprendra le 21 mars. Ouvert le 27 février, ce procès avait été suspendu après le retrait de tous les avocats de la défense. Les avocats se sont retirés parce qu'ils contestent la légalité du tribunal militaire composé de 2 magistrats professionnels et de 3 militaires ayant le rôle d'assesseur. Au total, 84 accusés sont jugés par un tribunal militaire, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Cerveau présumé du coup d'État manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
C'est aujourd'hui le 8 mars, Journée internationale de la femme. Au Tchad, un groupe de femmes appelle au boycott du pagne 8 mars. Et 6 mois être privées de leurs droits, elles invitent les femmes à ne pas acheter ce pagne et à ne pas le porter lors de cette journée mondiale consacrée aux droits des femmes. Nathalie Borges a demandé à notre confrère Moussaï Avenir de la tirer de passage à Washington. Quelle place occupent les femmes dans la société tchadienne?
Dire que la femme occupe une place au Tchad, c'est vraiment mentir. La femme est reléguée au second rang. Tout ce qui se dit de la femme se limite dans les discours politiques. Je pense qu'il y a des textes qui octroient 30% des places aux femmes dans toutes les institutions de la République, mais dans la pratique, il n'en existe pas. D'ailleurs, d'abord, pourquoi octroyer 30% de place aux femmes alors qu'on prône l'égalité dans les discours?
Combien y a-t-il de femmes journalistes dans votre rédaction?
Il y en a 3 et je pense que c'est même le meilleur record.
Sur combien de personnes?
3 sur 9. Nous avons toujours essayé de faire mieux, mais les femmes ont peur d'exercer dans des rédactions qui ne sont pas sur la ligne directrice du gouvernement. C'est ça le drame. Sinon, j'en avais 8 ou 9. Mais qui, au fil de temps, sont partis.
À propos, vous-même, vous avez été arrêté à plusieurs reprises au Tchad. Comment ça s'est passé?
J'étais arrêté en tout 19 fois, je crois. La plus longue fois, j'ai mis 4 mois en prison. Sur les 4 mois, j'ai passé 3 jours dans les cellules de services de renseignement où j'étais privé de l'eau et de la nourriture. J'ai vécu sous à peu près 40 degrés dans la cellule où j'étais avec quelques généraux de l'armée arrêtés, semble-t-il, pour une tentative de coup d'État. Ensuite, j'ai été déféré au parquet où j'ai été emprisonné à la maison d'arrêt d'Amsinéné. Dans cette maison d'arrêt, c'est vrai, j'étais mis dans des conditions largement acceptables, mais par moments, j'étais privé de la visite de ma famille, de mes avocats et autres. Nous avons vécu ces conditions avec le confrère Eric Tokona qui se retrouve aujourd'hui à la voie de l'Allemagne. Mais pour les autres fois, c'est des emprisonnements de 5 jours, 6 jours, 2 jours, 3 jours. On vous astrait à la diète, pratiquement. Et avec la chaleur qui fait au Tchad, des fois, vous avez une cellule de 50 degrés, mais il faut y vivre, quoi, 2-3 jours. Souvent, c'est pour peut-être vous demander à révéler vos sources, pour vous dire de faire attention à vos écrits. Mais voilà, il faut continuer, quoi.
Est-ce que dans votre rédaction, vous mettez en avant certaines femmes, certaines personnalités, pour qu'elles aient plus de visibilité, par exemple, des personnalités tchadiennes qui seraient des femmes?
Oui, nous le faisons constamment. Mais en même temps, nous dénonçons aussi les femmes qui pillent, qui volent, hein, comme dernièrement, le maire de la ville de Niamena, Madame Maria Matair, qui s'est rendue coupable de détournement, nous l'avons dénoncé. Mais par exemple, l'ex-ministre de la Santé, Ngarmatna Carmel, qui est une femme très courageuse, qui a dû dire les vérités de la République, qu'un ministre ne peut pas oser dire, nous l'avons encouragé. Naturellement, nous mettons vraiment en relève les femmes courageuses, les femmes qui font bien, les femmes qui se battent pour la démocratie.
Moussaï Avenir de la Tchirée, directeur de publication d'Abagard au Tchad. Guerre en Syrie, l'acheminement de l'aide humanitaire qui était prévu ce jeudi dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale, proche de Damas, et soumise à d'intenses bombardements de la part du régime syrien, a été reporté. C'est ce qu'annonce le comité international de la Croix-Rouge. La situation qui évolue sur le terrain ne nous permet pas de mener à bien l'opération, a fait savoir Ingi Sedki, une porte-parole du CICR, un des partenaires de l'ONU qui participe au convoi. Plus de 900 civils, dont 188 enfants, ont été tués depuis le début du 18 février de l'offensive du gouvernement syrien. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.